Et on démarre avec le duel, les mes amis confinés du samedi, la directrice de Marianne, Natacha Polony, le directeur de la Fondation Jean Jaurès, Gilles Finkelstein. Salut à tous les deux.
Bonjour.
J-16, les amis. Vous avez bien la date en tête. Le compte à rebours est lancé.
Oui.
Le compte à rebours est lancé.
Ça ne sera qu'un début, hein.
Ça n'est qu'un début justement, parce qu'on va en parler. Le compte à rebours est lancé dans nos têtes et il est lancé également pour le gouvernement, puisqu'il y a maintenant de l'impatience de notre part et de l'urgence du côté notamment du Premier ministre.
France Inter, le grand face-à-face, le duel.
Notre vie, à partir du 11 mai, ce ne sera pas exactement la vie d'avant le confinement. Pas tout de suite. Et probablement pas avant longtemps. Mais comme nous avons réussi le confinement ensemble, nous allons réussir ensemble le déconfinement. Comme nous avons appris à nous battre contre le virus, nous allons apprendre progressivement à organiser notre vie collective avec ce virus.
C'était le Premier ministre, vous avez reconnu la voix d'Édouard Philippe quand il s'adressait dimanche dernier lors d'une conférence de presse aux Français qui le regardaient. En l'occurrence, on va parler du fond, mais d'abord Gilles, puisque c'est notre rituel du samedi. Vous suivez l'évolution du moral des Français de très près avec la Fondation Jean Jaurès et l'IFOP. Je le disais, J-16, on a tous en tête la date du 11 mai. Est-ce que ça change quelque chose dans la tête, dans nos têtes?
Ça change beaucoup. Alors évidemment, la lassitude grandit. De semaine en semaine, la lassitude de l'inactivité ou de la sous-activité. La lassitude qu'on a vue progresser plus fortement encore de ceux qui sont en télétravail et qui sont en parents d'élèves avec la rentrée des classes, de la tension qui traverse chacun entre le parent et le salarié. Lassitude de l'absence de contact physique, les visio-apéros, c'est bien, mais ça a ses limites.
Ouais.
Et puis tout simplement la lassitude de l'enfermement. Et on a une femme qui nous a écrit « J'ai envie de liberté, de prendre ma voiture et de rouler sans même aucune destination particulière ». Donc il y a la lassitude. Mais la fixation de la date, le 11 mai, a provoqué un vrai renversement de perspective. Et ça, c'est très intéressant. Il y a comme s'il y avait une lueur d'espoir, et de manière très symptomatique, vous l'avez dit vous-même, on est à J-16. Jusqu'à présent, les Français y comptaient J plus 39. Aujourd'hui, c'est J plus 39 par rapport au début du confinement.
Oui.
Et bien, avec la fixation de la date, ça renverse la perspective et on est à J-16. Et évidemment, ça change beaucoup. Ça n'enlève pas, et c'est pour ça que les sentiments de cette semaine sont ambivalents. Il y a de l'espoir, mais il n'y a pas beaucoup plus de confiance parce qu'il y a énormément d'interrogations. On va en débattre sur les modalités du déconfinement.
Justement, Natacha, puisqu'on a entendu le Premier ministre annoncer la date du déconfinement, que les choses se précisent petit à petit, mais encore beaucoup de questions très concrètes qui restent posées quand on pense à des questions très simples concernant le retour des enfants à l'école, concernant la possibilité ou non de respecter les distances sociales dans les transports en commun, notamment dans les heures de pointe, évidemment. Lorsqu'on pense à l'interdiction d'ouvrir les restaurants et les bars dans un premier temps, mais qu'on pourra justement se rassembler dans le métro ou le RER, comment répondre à toutes ces questions aussi vite et dans l'urgence?
Alors, il faut se dire que justement, on ne va pas répondre à toutes les questions tout de suite et dans l'urgence. Et c'est sur ce point-là qu'on peut être extrêmement indulgent vis-à-vis d'un gouvernement qui tâtonne et qui ne peut que tâtonner. Tout le problème est de savoir justement quels sont les éléments de bon sens qu'on peut mettre en place. Par exemple, il y a une chose qui est assez inquiétante, c'est de voir que parmi les 70% de Français qui disent qu'ils ne veulent pas renvoyer leurs enfants à l'école, hein, parmi les 70% de parents d'élèves, pardon,
oui.
Eh bien, en fait, ce sont les plus défavorisés qui sont les plus inquiets et qui sont les plus réticents. Or, l'enjeu est justement de faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de décrochage chez les élèves les plus fragiles, c'est-à-dire justement ce public-là. Donc là, il y a un enjeu, il va falloir faire un travail de confiance. Cette confiance ne peut venir que de la certitude chez les parents que les conditions minimales de sécurité seront mises en place. Donc en fait, on n'est pas seulement dans du ressenti, on est dans de l'opérationnel. Comment on garantit aux gens que ça va se passer correctement. Or, je suis toujours étonnée de certaines choses, par exemple, où j'entends de la part du président, de la part du premier ministre, le terme, par exemple, les masques seront probablement obligatoires dans les transports. Ce oui. probablement est très étonnant. Vous voyez, si on veut donner confiance aux gens, on leur dit, ce sera obligatoire. Et nous ferons en sorte, mais ça on va en parler après, que tout le monde en est, ou nous garantirons pour ceux qui ne peuvent pas en trouver que l'État sera là, etc. Mais oui. ce probablement relève de l'indécision. Et c'est vrai pour d'autres sujets, par exemple le rapport entre l'État, les régions, les collectivités locales, de ce point de vue-là, fait apparaître aussi des flottements qui méritent d'être relevés et d'être analysés. Parce que, de fait, les conditions ne sont pas les mêmes sur tout le territoire. Il y a des endroits où le virus a moins circulé. Est-ce qu'il est nécessaire d'appliquer exactement les mêmes règles partout, quitte à ruiner des zones où, en fait, ça ne serait pas nécessaire ?
Gilles Finkelstein, et notamment sur cette difficulté à donner le détail du plan du déconfinement, ce qui devrait malgré tout être fait en tout début de semaine par Jean Castex, le monsieur déconfinement du gouvernement.
Oui, les difficultés ou les flottements sont multiples. Pour partie, sans doute, sont-ils inévitables. On peut espérer qu'ils ne sont que temporaires et on verra quels sont les éclaircissements qui sont apportés lundi. Je crois que pour beaucoup, il y a une erreur de raisonnement quand on est dans une dichotomie entre l'avant et l'après. Il y a eu un avant, un monde d'avant, ça, évidemment, nul ne peut en douter. Et il y aura un après, un monde d'après, on peut l'espérer, mais pour l'instant, nous sommes ni dans l'avant ni dans l'après, nous sommes dans le pendant. Et on reste dans le pendant, y compris après le déconfinement, c'est-à-dire dans la vie avec le virus, on rentre simplement dans une nouvelle phase de ce pendant. Et les caractéristiques de cette nouvelle phase, c'est qu'elle va durer. C'est-à-dire que ça ne va pas se compter en jours, ni en semaines, sans doute peut-être même pas en mois, mais peut-être en années, et que donc il va falloir inventer une vie économique, sociale, démocratique, avec le virus. C'est pour ça que l'enjeu n'est pas de bâtir une grande cathédrale là, dans deux jours, pour savoir exactement pendant des mois comment nous allons vivre.
Il va falloir faire preuve d'adaptabilité. Non, mais de savoir tout simplement si les enfants devront porter des masques pour aller à l'école, par exemple.
Bien sûr, on aura des réponses. Pendant cette période, les savoirs vont évoluer, les contraintes vont évoluer, les problèmes vont évoluer. Donc il faut qu'on ait une première série d'éclaircissements. Ça, c'est absolument indispensable. Mais surtout, je crois qu'on a besoin de repenser le rôle de l'État dans cette nouvelle phase. Dans la première phase, on avait besoin d'un État qui soit très présent, d'un État qui soit décisionnaire sur les questions de santé, parce qu'il y avait des questions d'autorité, parce qu'il y avait des questions de pénurie et qu'il fallait gérer la pénurie. Il y avait des mesures d'urgence sur le plan économique. Là, on rentre dans une phase qui est une phase chronique, qui n'est plus une phase aiguë. Et le rôle de l'État, je crois, doit changer. Ça doit être un État plus régulateur, c'est-à-dire qui fixe le cadre, qui fixe les règles, mais qui s'appuie beaucoup plus sur la société, sur les entreprises, sur les collectivités locales, individus. Et donc ça, ce changement-là, il faut qu'il soit fait, il faut qu'il soit fait maintenant.
Malgré tout, il y a des questions auxquelles il va falloir répondre, dont celle-ci. Le duel continue.
France Inter. Le grand face-à-face. Le duel.
Moi, je souhaite que le port du masque soit obligatoire et je souhaite qu'il n'y ait pas d'indulgence vis-à-vis de ce port du masque. Parce que si 98% des personnes en ont et qu'il y a 2% des personnes qui n'en ont pas, il ne faut pas les laisser rentrer dans les transports. Et si elles y rentrent, il faut les verbaliser. Mais si on veut sanctionner et verbaliser, il faut d'abord donner les masques. Il faut que tout le monde puisse en avoir. Et ce n'est pas le cas aujourd'hui, vous le savez. Donc oui, nous allons réfléchir aux modalités qui feront en sorte que tous les voyageurs auront des masques qui seront donnés par la région.
La présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, cette fin de semaine, les franciliens devront donc porter des masques dans les transports en commun. Mais comment faire, Natacha, pour répondre à cette question toute simple et que pose Marianne, notamment cette semaine, qui va payer ?
Alors, sur la question des masques, c'est quelque chose d'assez intéressant parce que ça rejoint exactement ce que vient de dire Gilles sur le rapport entre l'État et les différentes composantes de la société, notamment les individus. C'est-à-dire, est-ce que c'est la puissance publique qui doit fournir ce genre de choses ? Est-ce qu'on considère que le masque va faire partie des droits pour préserver sa santé, ou est-ce qu'on considère que chacun doit essayer par ses propres moyens de se protéger parce que nous sommes des individus conscients, responsables, et que ça, c'est à nous d'organiser notre propre protection. En fait, je pense que c'est un équilibre entre les deux, et que là aussi ça va être très intéressant parce qu'on va devoir réinventer ce qui relève de la démocratie. On parle souvent de ça et ça a l'air abstrait habituellement, cette question démocratique, c'est-à-dire le fait que la vie démocratique, c'est de permettre à chacun d'être citoyen et donc d'être doué de libre arbitre, d'être autonome. Sauf que l'autonomie, il appartient à la puissance publique de faire en sorte que les citoyens puissent être autonomes. Concrètement, sur cette question des masques, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que chacun actuellement ait conscience que les masques sont un élément indispensable pour pouvoir commencer cette phase qui en effet va être très longue de déconfinement.
À condition de pouvoir en
donc,
trouver.
Donc qu'il faut que tous ceux, mais justement, d'abord il faut que tous ceux qui peuvent s'en fabriquer, s'en confectionner, le fassent. Il faut que la machine économique française soit mise en route. Elle l'est, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de petites entreprises qui aujourd'hui produisent. Il a fallu, hélas, beaucoup de temps parce que les lourdeurs administratives ont fait qu'on a freiné au début ces initiatives en disant « mais attention, est-ce qu'ils sont vraiment homologués? Est-ce que c'est compliqué ?» Enfin, homologués ou pas, on comprend maintenant qu'un masque en tissu, du moment qu'il est imperméable, c'est indispensable et que c'est mieux que rien. Donc du coup, on met en route aussi la machine économique, et en revanche, la puissance publique doit être là pour tous ceux qui ne peuvent pas, qui n'ont pas les moyens, qui n'ont pas forcément non plus l'information. C'est-à-dire que c'est un équilibre entre toutes les composantes, et il serait dommageable d'attendre uniquement que la puissance publique le fasse, ou de croire que c'est le marché tout seul qui va faire. Il va falloir là aussi réinventer cet équilibre qui est indispensable pour la démocratie.
Gilles, Olivier Véran, le ministre de la Santé, donnait des ordres de grandeur pour les prix des masques grand public, entre 2 et 5 euros pour des masques là d'un textile de qualité filtrant, pour reprendre ces mots, et donc des masques réutilisables jusqu'à 20 ou 30 fois. Et c'est un calcul étonnant, mais qui aboutit à l'idée que finalement un masque ne coûterait que quelques centimes. Malgré tout, est-ce que c'est juste de demander à tout le monde d'en acheter, et de les acheter notamment dans des pharmacies, dans des bureaux de tabac, dans des magasins de grande distribution qui fixent leur prix comme ils le souhaitent?
Alors, en fait, il y a plusieurs questions qui viennent d'être abordées. D'abord, les masques sont aujourd'hui le symbole pour les Français de la difficulté, ou voire de l'échec de l'État dans la gestion de la crise. C'est très très spectaculaire dans les enquêtes, c'est-à-dire que les critiques se concentrent sur la question du masque. Deuxième remarque, il y a aussi une espèce de mythe autour du masque, avec le sentiment que porter un masque, c'est revêtir une cape d'invincibilité. Oui. Ce n'est pas le cas. C'est utile, mais c'est quand même moins efficace que tester, que d'isoler, et même que de se laver les mains. Et surtout, avec un masque, on ne se protège pas, on protège les autres. Bon, mais c'est utile. À partir de là, il y a trois questions que vous avez abordées. La première question, c'est est-ce que ça doit être obligatoire? Il y a beaucoup de pays, de plus en plus de pays, dans lesquels c'est une obligation juridique.
Oui.
Et au-delà de l'obligation juridique, on voit que c'est de plus en plus une obligation sociale, c'est-à-dire qu'il y a un souhait massif, hein, on est à 95% de souhait pour que ce soit obligatoire dans les transports publics, et c'est même de plus en plus déjà une pratique. Vous avez près de 40% qui portent un masque en dépit de la pénurie. Donc on va vers l'obligation, ça c'est la première question. Il y a une deuxième question que vous avez posée, Alice, c'est comment on fait pour sortir de la pénurie, parce que la troisième question de savoir qui paye, elle ne se pose que dès lors qu'on peut en trouver. Et donc, il faut avoir une offre qui soit en quantité suffisante. Dans la première phase, quand il fallait des masques chirurgicaux, dans ce contexte-là, qui était un contexte de pénurie, ce qui était important, c'était d'être gros, d'être un gros acheteur. Et donc, c'était l'État, et il aurait sans doute même fallu que ce soit l'Union européenne qui achète massivement des masques pour peser sur le marché. Là, pour les masques grand public, Natacha Polony, je crois, a raison, il faut être mobile, et donc, il faut pas du tout qu'il y ait cette centralisation. Reste la dernière question, la question compliquée que vous venez d'évoquer, Alice, c'est s'ils sont obligatoires, s'ils sont disponibles, qui doit payer? Je crois que l'État ne peut et ne doit en payer qu'une petite partie. Il y a une tentation de se dire, si l'État oblige, l'État doit payer. Mais c'est oublier que, bien souvent, l'État crée des contraintes réglementaires qui sont payées par les entreprises ou même qui sont payés par nous particuliers, que je pense au siège bébé, au détecteur de fumée, c'est des contraintes réglementaires, mais c'est nous qui les payons. Et donc, pour certains, en revanche, pour les plus défavorisés, évidemment, il faudrait que ce soit l'État. Mais les entreprises vont payer aussi. Elles vont payer pour leurs salariés. Hein, on voit de plus en plus et pas seulement dans l'automobile ou dans l'industrie, là où il y a des contacts avec le public. Elles vont payer souvent pour leurs consommateurs. Regardez dans les grandes surfaces. De plus en plus, il y a des distributions et il y aura des distributions de masques à l'entrée des magasins parce que c'est l'intérêt des entreprises de rassurer leurs consommateurs. Les collectivités locales vont à n'en pas douter, en distribuer beaucoup, d'autant plus que ça va être la preuve de leur efficacité, de leur utilité, alors que nous continuons à être en campagne électorale. Et puis, les citoyens, eh ben, ils vont en payer ou en fabriquer. Au total, quelle que soit la solution, c'est quand même nous qui allons payer. Hein, parce que ce soit les entreprises, même si elles internalisent ça dans leurs coûts, que ce soit les collectivités locales ou que ce soit nous directement, de toute manière, à la fin, c'est quand même le consommateur qui paye.
Natacha.
Oui, la question d'ailleurs de qui va payer, elle est plus large que simplement les masques. Nous l'avons mise en une de Marianne parce que la question, c'est sur l'ensemble. Tout cela modifie totalement les conditions économiques. Il va falloir totalement recomposer. Et quand il y a une crise aussi importante, la question de qui va payer, elle est essentielle parce qu'elle relève du pacte social, elle relève de notre conception de la justice sociale. Et les réponses, c'est ce que nous montrons dans le journal, les réponses en fonction des différentes crises, peuvent être très différentes.
Et alors justement, on va en parler de cette question, qui va payer et quand ?
France Inter, le grand face-à-face. Le duel.
On a préféré que le ministre de l'économie, évidemment, une situation tout à fait anormale et difficile à vivre, qu'est cet endettement français, mais on a préféré ça que le licenciement de masse et que des faillites, parce que ça nous coûterait plus cher le jour où la reprise économique sera là.
Il va falloir produire un effort conséquent pour que les dettes d'aujourd'hui ne soient pas remboursées par la génération de demain, mais que les dettes soient remboursées par notre croissance. Mais la croissance, ça veut dire sans doute qu'il faudra accepter de se retroucher les manches pour pouvoir aussi gagner plus, pour pouvoir travailler plus. Je pense que pendant une année, il faudra accepter de travailler peut-être jusqu'à 37 heures par semaine, c'est-à-dire aux alentours de 1700 heures à l'année.
C'était d'abord le ministre de l'Action et des Comptes Publics, Gérald Darmanin, et puis Bruno Retailleau, le président du groupe Les Républicains au Sénat, qui étaient les invités de France Inter cette semaine. Est-ce que vous trouvez normal que la question du remboursement de la dette publique soit posée dès maintenant, dans l'urgence, et qu'il faille déjà poser la question en ces termes, avant d'en parler avec Louis Schweitzer dans un instant? On a préféré l'endettement à la faillite. Natacha.
De toute façon, la question de la dette se posait déjà avant, elle va se poser de façon beaucoup plus aiguë après. Dans une crise économique de cette ampleur, il y a différents choix qui relèvent, je le disais, de la politique, c'est-à-dire des choix que l'on fait en matière d'équité entre les différentes composantes de la société. Dans une crise économique, on peut faire payer les très hauts revenus. Regardez, Roosevelt, après la crise de 29, a fait augmenter le taux marginal d'imposition jusqu'à 90% à un moment. Alors, le problème, c'est que l'ISF et les choses comme ça, c'est totalement marginal par rapport à l'ampleur de la crise là. C'est-à-dire qu'on gagnerait 3-4 milliards. Ça n'est rien du tout par rapport à ce qu'il va falloir débourser. Donc, c'est pas forcément la solution. Il y a l'idée, on va faire payer les salariés. Il faut qu'ils travaillent plus. Il faut qu'ils acceptent de baisser leurs avantages. Ça, c'est assez souvent fait dans les crises. Il y a le fait de faire payer le contribuable, ça c'est très rare, hein, en gros. Oui. C'est-à-dire uniquement de l'impôt, ça s'est fait en Angleterre au 19e siècle, mais c'est assez rare. L'austérité. Il y a la question, on peut faire payer... Oui, on peut faire payer les marchés financiers. Ça aussi, c'est très rare, hélas, hein, parce qu'ils se refont toujours la cerise, ceux-là. Et puis, il y a la question de, est-ce qu'on fait payer les épargnants par de l'inflation? Alors, là aussi, ça ne doit pas se faire de façon brutale, mais de fait, créer de la monnaie, ça permet, si on le fait tout doucement, de lisser sur 20 ans et, en gros, de faire en sorte que ce soit les rentiers qui payent. Et c'est une solution, mais la question de la dette se pose, c'est-à-dire que une dette qui serait une dette perpétuelle dont on ne paierait que les intérêts tout en sachant très bien qu'on ne remboursera jamais le capital, de toute façon, c'est un fait aujourd'hui. c'est le capital de la dette française ne sera sans doute pas remboursé. Il faut allonger absolument le délai de cette dette. Et deuxième chose, il faut faire de la monnaie. Le problème, c'est la Banque d'Angleterre va le faire. Comment on fait avec la Banque Centrale Européenne? Et ça, c'est une piste qui doit être creusée, c'est-à-dire de faire en sorte que chaque banque centrale des pays européens puisse, sous le contrôle de la Banque Centrale Européenne, créer de la monnaie pour petit à petit lisser, là aussi pas brutalement et en contrôlant, mais pour lisser petit à petit le marché, faire en sorte que on absorbe doucement cette, ce qui va être une crise absolument effarante.
Gilles, contre la crise, nous avons fait le choix de la dette, c'est le seul choix responsable, disait Bruno Le Maire cette semaine, mais il faudra rembourser un jour.
Eh oui.
Non mais vous dites eh oui.
Sans doute la... Attendez, mais je vais évidemment la question se pose. En tout cas, c'est une question qui la question à la fois de la situation économique, de la chute, de l'effondrement de la croissance et de la progression à des niveaux encore supérieurs de la dette est une question qui inquiète et qui inquiète légitimement les Français. On vit sans doute la première crise économique qui a été décidée par les hommes eux-mêmes en considérant que le risque sanitaire était trop important et donc en assumant le coût économique. Cette crise, elle a un coût absolument considérable. On a dépensé déjà beaucoup, même si c'est compliqué de s'y retrouver entre ce qui est vraiment dépensé, ce qui est uniquement de la garantie de prêt, ce qui est dépensé par la Banque Centrale Européenne, ce qui est dépensé par les États. Mais on a dépensé des centaines et même des milliers de milliards. On a dépensé, je crois, utilement. Il faut quand même le dire. Quand on regarde le nombre de morts qui ont été évités, il y a encore une enquête de l'Institut Pasteur qui est sortie cette année, quand on voit l'utilité du chômage partiel, notamment en France, qui fait que on ne se retrouve pas dans la situation dans laquelle se retrouvent d'autres, notamment les Américains. Donc on a dépensé beaucoup. Et nous allons dépenser, il faut le dire, davantage encore. À la fois pour sauver le présent, ça n'a pas été... Tout n'a pas été fait. Je crois qu'il y a un certain nombre de prêts qui ont été garantis par l'État qui vont se transformer en fonds propres pour les entreprises. Il y a des secteurs entiers qui n'ont pas encore été suffisamment aidés. On va en parler avec Luc Schweitzer. Il faudra dépenser davantage encore pour préparer le futur. C'est-à-dire non seulement pour relancer l'économie, mais pour la réorienter, pour anticiper la crise future qu'est le changement climatique. Et donc, quand on est devant ces dépenses considérables, mais je crois que la formule, elle est simple. Nous devrons rembourser lentement. Ça veut dire quoi?
Enfin, nous, nos enfants, nos petits-enfants.
Ça veut dire quoi? Nous devrons rembourser, ça veut dire qu'il ne faudra pas faire défaut. Ça provoquerait une crise financière supplémentaire dont nous n'avons pas besoin. Mais lentement, ça veut dire que la question ne se pose pas, elle ne doit pas se poser aujourd'hui. Et je dis ça pour tous ceux qui sont obsédés par la réduction des déficits depuis longtemps ou qui sont obsédés par l'augmentation des impôts ou pour les autres. Je crois que ce n'est pas la question de l'heure. Et donc, je partage ce que dit Natacha. La condition pour pouvoir rembourser lentement, c'est d'emprunter à long terme pour étaler. Daniel Cohen et Nicolas Terry ont proposé dans Le Monde de cette semaine que l'on emprunte à 50 ou à 100 ans. C'est la première condition. Et la deuxième condition, évidemment, c'est d'emprunter non seulement longtemps, mais d'emprunter à taux faible pour pouvoir alléger.
Ce qui est le cas à présent. D'un mot, oui, Gilles.
Oui, mais c'est possible. Eh ben, c'est possible, pas seulement en s'appuyant sur les marchés financiers tout seul, parce que les sommes et les durées sont trop considérables, mais en s'appuyant aussi sur la Banque Centrale Européenne. Il faut qu'elle coopère avec les États en explicitant ce qu'elle fait déjà, c'est-à-dire qu'elle rachètera ses emprunts. Et donc la solution, elle est d'abord européenne. Elle requiert du volontarisme, elle requiert du pragmatisme, mais c'est possible et elle se pose. Et vraiment, va payer, mais il ne faut pas commencer à payer tout de suite, sinon.
Mais c'est pas on, justement, Gilles et Natacha, puisque c'est nos enfants, nos petits-enfants. Quand vous dites qu'il faut emprunter à 50 ou à 100 ans, c'est reléguer la question de la dette à nos successeurs. Juste d'un mot avant de retrouver Louis Schweitzer, et je vous pose la question de manière provocatrice, puisque tout le monde, ou le plus grand nombre de personnes, la plus grande proportion des gens qui étaient intervenus sur la question de la dette disaient qu'il ne fallait absolument pas laisser cette charge aux générations future.
Alors Ali, d'un mot, cette idée, c'est nos enfants, nos petits-enfants, mais nos enfants et nos petits-enfants ont aussi besoin que aujourd'hui nous puissions créer de la richesse en investissant, en prévoyant l'avenir. Donc c'est pas seulement un coût pour eux, c'est un investissement pour eux. Donc présenter cela en disant c'est nos enfants, nos petits-enfants qui vont payer, quand c'est dépensé pour de la dépense inutile, non investie, parce que on a refusé, parce que on a alourdi une machine administrative qui ne fonctionne pas, là je veux bien, mais ce n'est pas ce qu'on envisage là. Et surtout, j'insiste, mais on verra avec Louis Schwedier.
Justement, on va le retrouver tout de suite.
La question de la dette doit aussi être pensée avec la question de la monnaie, la création de monnaie. La façon de créer tout doucement de la monnaie, on disait autrefois de faire tourner la planche à billets, pour essayer petit à petit que ce soit finalement la rente qui paye, en créant de la richesse maintenant et en permettant de donner de quoi investir.